Bien, il est toujours extrêmement difficile de parler après Annick Peters-Custeau et Patrick Boucheron, donc je ne vais rien dire, pour ne pas être ridicule, et me contenter donc d'introduire la première session de ce temps de réflexion, dont vous avez compris qu'il était proche de la fin, mais pas tout à fait quand même au moment de la fin. Donc ce premier temps de la réflexion qui est consacré donc à l'eschatologie et à la prophétie, un temps qui va nous emmener aussi un petit peu à voyager, d'abord dans la péninsule ibérique, dans la première partie de cette session, puis plutôt vers les rivages italiens dans la deuxième partie. Alors pour mettre tout le monde à l'aise, le président de séance ne sert à rien, hein, on le dit tout de suite, si ce n'est à assurer l'ordre de la séance. Donc en fait, ce qu'ont prévu les organisateurs, c'est une succession donc de deux communications suivie d'un temps de discussion. Et ça tombe bien, puisque comme cette session est particulièrement bien organisée, rationnelle et homogène, vous allez voir que les communications se répondent tout à fait harmonieusement, donc ce qui devrait faciliter le temps d'échange et de réflexion entre nous. Alors, pour commencer, donc, je vais présenter la première intervenante, donc Gaëlle Bosman, qui vient de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et qui va donc nous parler des usages et des fonctions de l'eschatologie monastique dans le discours royal ibérique, le tournant des 11e, 12e siècles.
Bonjour à tous. Je voudrais dire un grand merci aux organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Le colloque promet d'être très intéressant. Donc, je vais parler des usages et fonctions de l'eschatologie monastique dans le discours royal puis impérial ibérique au XIe et XIIe siècle. Les utilisations politiques et idéologiques de l'eschatologie dans les mondes byzantins, carolingiens ou ottoniens sont bien connues. L'assimilation du souverain à l'empereur romain qui retient l'Antichrist à la fin du monde, d'après la deuxième épître aux Thessaloniciens, a été utilisée de longue date afin d'exalter les figures impériales. Mais la déclinaison de ces discours dans la péninsule ibérique est généralement moins bien connue. La question de tels usages y a pourtant été posée de manière précoce. Dès 1978, le philologue espagnol Juan Gil arguait que le titre impérial et ses implications apocalyptiques aurait été employé dans la péninsule à la fin du IXe siècle par le roi Alphonse III de Léon, que ses contemporains auraient identifié à l'empereur des derniers temps. D'après l'Apocalypse du Pseudo-Méthode, un texte composé vers 691-692, ce dernier empereur est un roi chrétien qui anéantira le royaume des Arabes et instaurera un dernier règne de paix avant la fin du monde. Dans la péninsule ibérique, une chronique écrite dans l'entourage d'Alphonse III prédit de même sa victoire sur les musulmans. Aux yeux de Juan Gil, ce texte et les actes, les diplômes d'Alphonse III, qui le parent du titre d'empereur, véhiculeraient ainsi les élucubrations apocalyptiques, donc je cite, de certains clercs visionnaires influencés par le pseudo-méthode, à l'image des lettrés de l'entourage de Charlemagne à l'approche de l'an 800. La même explication justifierait l'emploi du titre d'empereur par Alphonse VI à la fin du XIe siècle. L'attente déçue de la fin du monde et l'échec des prophéties annonçant la victoire finale sur les musulmans auraient conduit à une désaffection des prophéties eschatologiques. Il faudrait alors attendre le XIIIe siècle pour voir la résurgence d'un discours prophétique et apocalyptique mis à profit par les souverains ibériques. La production de prophéties apocalyptiques connaît alors un développement particulièrement important dans les derniers siècles du Moyen-Âge, qui a été bien étudié pour la couronne d'Aragon par notamment Isabelle Rousseau-Jacob et qui sera l'objet de la prochaine communication par Juan Molina, qui est parti de là. Ouais. Donc revenons sur l'hypothèse de départ. La réalité des attentes apocalyptiques qu'avait postulé Juan Gil autour de l'an 800 a été depuis largement remis en cause. D'autre part, l'emploi de la titulature impériale dans les chartes d'Alphonse III est aujourd'hui considéré comme le produit d'une forgerie tardive réalisée par les copistes, les scribes des XIe, XIIe siècles. De fait, c'est à cette époque que le titre d'empereur est revendiqué par les souverains castillo-léonais. Il apparaît pour la première fois dans la documentation sous Alphonse VI et se maintient sous les règnes de sa fille, Urraca, et de son gendre, Alphonse Ier d'Aragon, dit le batailleur. Et enfin d'Alphonse VII, qui est resté dans l'historiographie médiévale comme l'empereur par excellence. Les constructions idéologiques des souverains ibériques, étudiées notamment par Thomas Desvart, n'emploient pas au Moyen-Âge l'imaginaire impérial, mais elles s'appuient plutôt sur une spiritualité monastique, pénitentielle, dominée par la tension eschatologique. L'évolution de ce modèle mérite d'être analysée à la lumière des changements politiques et culturels qui marquent la fin du XIe siècle dans la péninsule. L'apparition du titre impérial prend notamment place après un changement majeur dans les équilibres politiques avec la conquête de Tolède en 1085 par Alphonse VI. La frontière islamo-chrétienne, longtemps fixée au Douro, se déplace alors bien plus au sud. Dans ce cadre, il est intéressant de regarder de manière plus précise les usages et les fonctions de l'eschatologie dans les discours royaux et impériaux ibériques, en s'interrogeant sur le tournant que pourraient représenter les XIe et XIIe siècles. J'en envisagerai donc deux aspects. D'abord, la possibilité que le discours apocalyptique ait un lien avec l'adoption du titre d'empereur. Et enfin, l'empreinte du discours monastique sur les fins dernières, sur un ensemble d'idées, de représentations ou de normes qui fondent l'action des souverains chrétiens, face à un modèle concurrent, celui de l'impérator comme un général victorieux. L'exaltation apocalyptique du souverain dans les mondes francs ou germaniques s'appuie sur le rôle de l'Empire romain à la fin des temps, dont les fondements sont à la fois bibliques, les quatre empires de Daniel et la deuxième épître aux Thessaloniciens, et apocalyptique avec la légende du dernier empereur. Paul Alexander définit celle-ci comme la prédiction qu'à la fin des temps, un empereur romain remettra sa charge impériale et son pouvoir à Dieu et mettra ainsi un terme à l'existence de l'Empire romain. Cet acte de reddition suit invariablement la décharge par l'empereur de la principale fonction qui lui est assignée par tradition, la défaite décisive d'une armée ennemie. Comme je l'ai dit, selon certains historiens, l'influence de ce modèle expliquerait l'adoption du titre impérial par les rois de Castille-Léon. L'examen des textes et de leurs copies ne semble toutefois pas concluant en ce sens. La légende du dernier empereur s'est diffusée en premier lieu en Occident par l'intermédiaire de l'Apocalypse du Pseudo-Méthode. Dans la péninsule, le plus ancien témoignage attesté du texte figure dans deux manuscrits frères, copiés en Navarre et dans la vallée de l'Èbre. Il s'agit de deux vastes compilations historiographiques qui rassemblent histoire et chronique depuis Orose jusqu'au roi de Léon puis de Pamplune, et à la suite un ensemble de textes sur la fin des temps. Ce n'est toutefois pas dans l'ensemble des textes sur la fin des temps qu'ont été insérés les extraits de l'Apocalypse du Pseudo-Méthode. Il figure dans le secteur historique du manuscrit et n'aborde en réalité que la figure d'Alexandre le Grand et des peuples immondes de Gog et Magog qui l'auraient enfermé derrière des portes d'airain qui ne s'ouvriront qu'à la fin des temps. La légende du dernier empereur n'apparaît donc pas dans ces compilations en tant que telle. De la même manière, dans la chronique de Narrera, copiée en Navarre après 1180, cet élément de la légende d'Alexandre est intégré dans la première partie de la chronique, qui est une histoire universelle. Autrement dit, dans ces compilations historiographiques navarraises, les extraits de l'Apocalypse du Pseudo-Méthode ne reprennent pas la partie eschatologique de la légende du dernier empereur, mais rappellent la vocation universelle de l'Empire d'Alexandre, son rôle de protecteur contre les nations païennes et l'instauration d'une période de paix. Deux exemplaires complets du Pseudo-Méthode figure dans un recueil de textes didactiques provenant de Ripoll et dans une compilation de traités théologiques du XIIe siècle conservée à Borgo de Osma. Ces deux manuscrits contiennent la deuxième édition du texte, qui est datée du VIIIe siècle, une recension dite abrégée et occidentalisée, notamment parce qu'elle fait disparaître le cadre de l'Empire et ne fait mention que d'un roi des Romains. La légende du dernier empereur était encore connue dans la péninsule par l'intermédiaire d'un autre texte, l'oracle de la Sibylle Tiburtine. Un exemplaire de cette prophétie a été copié à Léon en 1047, sans doute dans le scriptorium royal, pour compléter un manuscrit des étymologies. Le texte est l'un des deux témoins les plus anciens de la deuxième version latine, qui contient des interpolations de listes de souverains italiens jusqu'à l'empereur Henri III, donc mort en 1056. Le deuxième exemplaire de l'oracle est également daté du XIe siècle et fut copié à Ripoll dans une compilation théologique. Enfin, un troisième texte a contribué à diffuser la légende du dernier empereur dans la péninsule, la lettre d'Hadson sur l'Antéchrist. Celle-ci a été copiée sur les derniers folios d'un manuscrit du XIIe siècle qui contient un commentaire de Bède et deux traités théologiques. Au vu des textes avec lesquels elles ont été transmises, la copie de ces prophéties répond vraisemblablement à des objectifs didactiques ou théologiques, mais pas du tout politiques ou apocalyptiques. Aucune ne présente d'interpolation ou d'adaptation qui mettrait à jour la liste des souverains pour y intégrer les rois-empereurs de la péninsule. Toutes sont des copies fidèles de leurs modèles, eux-mêmes composés et remaniés de manière à exalter les empereurs byzantins, francs, italiens ou germaniques. Ceci ne s'explique pas, a priori, par un refus du rôle eschatologique de l'Empire. Martine de Leon, qui est l'auteur d'un commentaire sur l'Apocalypse composé à la fin du XIIe siècle, reprend l'exégèse de la deuxième épître aux Thessaloniciens et identifie ce qui retient l'Antichrist et la fin des temps à l'Empire romain. En suivant Hadson à la lettre, le chanoine affirme que l'heure n'est pas encore venue, puisque même si l'Empire a été détruit dans sa majeure partie, la dignité impériale subsiste en la personne des rois francs. L'un d'entre eux règnera un jour sur l'ensemble de la terre et à la fin d'un règne paisible et heureux, ira déposer sa couronne à Jérusalem et mourra, et alors ça sera la fin des temps. Chanoine régulier de la Collegiane Salisindoro, une institution protégée par les souverains de Léon, Martine de Léon écrit entre 1185 et 1203, c'est-à-dire à un moment où, dans la péninsule, le titre impérial est tombé en désuétude après le partage de l'Empire en août 1157, à la mort d'Alphonse VII. Néanmoins, dans la péninsule, le souvenir de l'Empire perdure et fait l'objet de réemploi. On aurait pu s'attendre à ce que l'exégète, écrivant près de deux siècles après Hadson, modifie son discours. Tel n'est pas le cas. De fait, contrairement aux sources franques ou ottoniennes, les chroniqueurs ne cherchent pas à présenter les rois-empereurs de la péninsule comme des successeurs politiques des empereurs romains. Au contraire, un texte comme la Chronica de Fonsi Imperatoris, rédigé en Castille vers 1147-1149, dans l'entourage de l'empereur Alphonse VII, présente volontairement l'adoption du titre impérial et le couronnement d'Alphonse VII comme une instauratio ex novo. Il n'y est fait aucune référence à un empire déjà existant ou à l'idée d'une rénovation impériale. Pour autant, les rois-empereurs de la péninsule ne sont pas différents de leurs prédécesseurs romains ou carolingiens. Constantin ou Charlemagne constituent notamment des modèles avec lesquels les chroniqueurs comparent les souverains ibériques. On le voit par exemple dans un poème qui a été composé pour exalter la prise d'Almeria en 1147 et qui clôture la Chronica de Fonsi Imperatoris. Dans ce poème, l'auteur compare ainsi l'empereur de toutes les Espagnes, donc l'impérateur Adefonsus nomen tenet imperatoris, il le compare à Charlemagne. Alors, comment comprendre l'apparition de la titulature impériale dans la péninsule à la fin du XIe siècle? Hélène Cyr-Antoine a bien montré que l'adoption du titre d'empereur par Alphonse VI doit se comprendre dans le contexte d'une autorité et de revendications territoriales élargies. Le titre d'impérateur apparaît toujours dans les diplômes royaux accompagnés de la précision sur toute l'Hispania. En 1078, lorsque la chancellerie royale adopte la titulature impériale, Alphonse VI a acquis une domination sans précédent sur des territoires disparates sur lesquels son autorité s'exerce de manière différenciée. Donc ces territoires, ce sont le royaume de Galice, le royaume de Castille et de Léon, et Tolède, qu'il vient donc de conquérir. Le titre d'impérator vient donc soutenir la volonté hégémonique du souverain castillo-léonais sur la péninsule et sa prétention à régner sur tous ses peuples, que ceux-ci soient chrétiens, donc notamment l'espace navarro-aragonais, ou non chrétiens, c'est-à-dire les royaumes des Taïfas en Al-Andalus. Le constat reste valable sous le règne de ses successeurs, Urraca et Alphonse le Batailleur, Ce dernier poursuit tout particulièrement l'objectif de conquête des villes sous domination islamique, notamment Saragosse. L'utilisation par Alphonse le Batailleur du titre d'empereur semble ainsi, comme le suggère Hélène Cyr-Antoine, recouvrir deux dimensions. La revendication d'une autorité politique et la valorisation de la dimension militaire du titre d'impérator. Lorsqu'Alphonse VII monte sur le trône en 126, il hérite d'un pouvoir royal fragilisé sous le règne de sa mère Ouraka par son union chaotique avec Alphonse le Batailleur et la guerre civile entre les royaumes de Castille et Léon et d'Aragon qui a suivi. Le règne de l'empereur, Alphonse VII, est donc marqué par le rétablissement de l'autorité royale. Le récit de son couronnement impérial en 135, dans la Chronica de Fonsi Imperatoris, traduit tout particulièrement cette idée. Donc c'est ce qui est exposé dans le texte ici. Le règne de l'empereur... Le roi réunit à Léon en concile tous les grands des royaumes chrétiens, les représentants de l'Église et le peuple. Tous sont présents pour assister au couronnement impérial, décidé la veille après avoir reçu le conseil divin. Les comtes et rois ibériques, de même que les comtes de Barcelone, de Toulouse et de Gascogne, et le roi des musulmans Zafadola, lui prêtent hommage. Les historiens ont néanmoins montré que le récit du chroniqueur doit être pris avec précaution. De la mention de la date à la liste des vassaux d'Alphonse VII, le récit prend des libertés avec la réalité pour mieux servir la propagande impériale. L'adoption du titre d'empereur traduit donc d'abord des prétentions hégémoniques, puis une utilisation dans le cadre de rivalités politiques. Pour le justifier, chronique et diplôme s'appuient sur l'imagerie des prophéties messianiques et apocalyptiques. Le procédé est un ressort ancien des discours de légitimation des rois de Léon. À la fin du IXe siècle, un texte intitulé la chronique prophétique se présente comme une pseudo-prophétie attribuée au prophète biblique Ézéchiel, et elle annonce que le roi Alphonse III vaincra les musulmans et les chassera de la péninsule avant la Saint-Martin de l'année 883. Cette prophétie, donc, qui ne s'est pas réalisée, a été mise à jour régulièrement jusqu'à la fin du Xe siècle pour soutenir les prétentions territoriales des rois de Léon. On ne conserve pas de texte prophétique produit au XIe-XIIe siècle qui exalterait de telle manière le rôle messianique des rois-empereurs. En revanche, le discours historiographique emprunte le vocabulaire prophétique au moment de décrire les actions des souverains et tout particulièrement leur guerre contre les musulmans. L'emploi de qualificatifs bibliques pour désigner ces derniers, notamment de Moabites ou d'Agarènes, permet de placer implicitement le récit dans le champ du providentialisme biblique. De manière typologique, les rois chrétiens accomplissent les événements passés et futurs annoncés par les prophètes. Dans la Chronica de Fonsi Imperatoris, par exemple, Isabelle Lacéras a montré qu'Alphonse VII est identifié à la figure de Judas Maccabée afin de soutenir ses prétentions à étendre son pouvoir sur toutes les nations de la péninsule et notamment les peuples païens. Le chroniqueur utilise également à deux reprises l'imagerie apocalyptique pour décrire les armées d'Alphonse VII et de ses alliés. Dans cet exemple notamment, il décrit une expédition de l'empereur en Al-Andalus et il raconte que les Moabites et les Agarènes, envahis par une grande terreur, abandonnèrent les villes et les petits châteaux pour se réfugier dans les places fortifiées et les châteaux les plus solides, et donc qu'ils se cachèrent dans les collines, les grottes des montagnes et les cavernes de pierre et dans les îles de la mer, une référence implicite à Apocalypse 6,15. Ce verset décrit l'ouverture du sixième sceau et les signes de la colère divine qui manifesteront la fin des temps. Implicitement, le chroniqueur compare donc les armées chrétiennes de l'empereur au fléau de l'Apocalypse, signe de la colère de Dieu qui va s'abattre sur les musulmans. Dans un passage précédent, les armées d'Alphonse et de son allié le seigneur andalous Zafadola sont cette fois comparées aux locustes qui dévastent la face de la terre. Une citation du livre de Judith, qui pourrait être aussi une allusion implicite à Apocalypse 9. Les rois-empereurs sont dotés d'une mission spécifique. Comme le dernier empereur ou Alexandre le Grand, ils sont chargés de la défense du peuple chrétien et sont pour cette raison les protégés de Dieu. Cette dimension est particulièrement mise en valeur dans le Liber Chronicorum de l'évêque Pélage d'Oviedo, composé dans les premières décennies du XIIe siècle. Alphonse VI, y est présenté comme le berger de son peuple. Et l'évêque raconte qu'à sa mort, son troupeau, le royaume, fut aussitôt encerclé par les Sarrasins et les hommes mauvais. De manière à exalter la sacralité de son siège, l'évêque d'Oviedo raconte également comment la faveur de Dieu s'était manifestée par l'invention des reliques de l'Arche Sainte, dont vous avez ici une image qui est toujours conservée à Oviedo. Donc un coffre qui contiendrait les reliques de la Passion, dont notamment un morceau de la vraie croix transporté depuis Jérusalem à Oviedo pour échapper à l'avancée musulmane. Dans une chronique concurrente, les chroniques anonymes de Sahagun, la relique de la vraie croix est cette fois conservée dans ce monastère et c'est l'empereur byzantin Alexis qui en aurait fait offrande à Alphonse VI. De la sorte, si les empereurs ibériques ne se revendiquent pas comme des successeurs de l'Empire romain, ils en sont quand même les héritiers spirituels et ils récupèrent la sacralité du legs impérial. La croix, découverte par l'impératrice Hélène et conservée depuis par les empereurs d'Orient, passe ainsi sous la protection des rois de la péninsule qui assument dès lors la fonction de défenseurs de la chrétienté et sont les nouveaux élus du Christ. Ce dernier aspect est clairement exprimé dans la Chronica de Fonsi Imperatoris. Alors que l'empereur Alphonse VII vient de perdre l'un de ses chefs les plus valeureux, le gouverneur de Tolède, Munio Alfonso, les grands du royaume lui disent que seul lui est indispensable à la poursuite de la guerre contre les musulmans, car il est celui qui est favorisé par Dieu. Dieu lui enverra d'autres, donc d'autres soldats aussi braves que Munio Alfonso. Le rôle providentiel des souverains apparaît dans la péninsule en réalité dès 812 dans le testamentum du roi Alphonse II d'Oviedo, une donation solennelle à la basilique Saint-Sauveur. Ce mécanisme de légitimation est traditionnel pour les empereurs chrétiens. Ce qui est ici spécifique est l'adaptation de ce discours à la nature de la mission en elle-même, la lutte contre l'islam. Depuis le IXe siècle, les musulmans sont en effet présentés dans l'historiographie ibérique comme un châtiment divin envoyé par Dieu en conséquence des péchés de son peuple. Une pénitence appropriée et un changement de comportement dans le présent permettront de renouer l'alliance avec Dieu et de retrouver la faveur divine. Ce schéma vétérotestamentaire, au fondement idéologique de la conquête chrétienne, est utilisé par les souverains pour exalter leurs actions, tant belliqueuses que réformatrices. Il se lie à une spiritualité monastique qui martèle l'idée qu'il faut faire pénitence sans attendre, car si la date de la fin des temps est inconnue, elle ne saurait être lointaine. Dans les chroniques du XIIe siècle, la guerre contre les musulmans est le moyen par excellence d'accomplir cette pénitence. Les combattants chrétiens, en luttant contre les ennemis du Christ, rachètent l'offense de leur péché. L'archevêque de Saint-Jacques de Compostelle, Diego Relmires, a ainsi fait envoyer en 124 la lettre suivante, donc à l'empereur Alphonse VII et aux grands laïcs comme ecclésiastiques. Il aurait également fait demander à ce qu'elle soit lue lors des sermons du dimanche, pour en accroître la diffusion. Le texte est conservé dans l'Historia Compostelliana, une chronique qui a été écrite entre 1107 et 1140 pour exalter les hauts faits de l'archevêque. Comme on le voit dans les extraits que j'ai reproduits ici, l'exhorte de la lettre fait usage de la tension eschatologique. Comme Augustin et Grégoire avant lui, l'archevêque exhorte ses lecteurs à « sortir du sommeil » pour reprendre la citation de l'apôtre et à agir ici et maintenant pour leur salut, car leur mort et la fin des temps approchent. Le moyen de s'assurer une place au royaume des cieux est rapidement explicité dans la lettre. Il faut se faire les Milites Christi, et à l'image des fils de la Sainte Église, lutter contre les ennemis du Christ, ici les Pessimis Saracenis, et afin d'ouvrir par l'Espagne la voie vers Jérusalem et le tombeau du Christ. En effet, il sera beaucoup plus simple pour les chrétiens de se rendre en Terre Sainte en passant par l'Espagne et le nord de l'Afrique qu'en passant par la voie maritime ou par l'Italie. L'archevêque avait reçu quelque temps auparavant une lettre du patriarche de Jérusalem, Guermont de Pitigny, l'exhortant à envoyer des renforts ou de l'argent pour soutenir la défense du Saint-Sépulcre. Cette lettre, également conservée dans l'Historia Compostelana, commençait par un tableau apocalyptique de la situation des chrétiens d'Orient, le patriarche assurant à plusieurs reprises qu'il n'aurait pas pris la plume si un certain nombre de signes incontestables tels qu'une sécheresse et une plaie de sauterelles ne l'y avaient poussé. On voit donc avec cet échange de lettres que le recours à la grammaire apocalyptique était un langage politique commun, utilisé afin d'exhorter l'action tout en lui donnant une portée eschatologique. La lettre de l'archevêque de Compostelle est en outre révélatrice de la pénétration de l'idéal de la croisade dans la péninsule. Comme l'ont bien montré les travaux de Daniel Balou ou de Philippe Josserand, celui-ci a conduit à une renégociation du modèle pénitentiel de la lutte contre l'islam. En tant qu'elle n'est pas une libération des lieux saints, cette dernière n'apparaît progressivement plus suffisante pour obtenir la rémission de ses péchés. D'après la Chronica Defensi Imperatoris, Munio Alfonso, le gouverneur de Tolède que j'ai déjà évoqué, voulait ainsi se rendre à Jérusalem plutôt que de lutter contre les musulmans dans la péninsule. Ce sont donc l'archevêque de Tolède et d'autres évêques et d'autres clercs qui ont demandé à l'empereur de le décourager de se rendre à Jérusalem et de plutôt rester en péninsule, qui ont obtenu qu'il y reste et qu'il lutte contre les musulmans. Les chroniques rapportent que les rois ont obtenu des papes les mêmes garanties de rémission de leurs péchés pour leur campagne, telles que celle d'Almeria en 147, que pour la croisade. Pour autant, la lutte contre l'islam ne semble pas suffisante en tant que telle pour asseoir l'autorité et la légitimité des rois-empereurs. Cette idée ressort de la comparaison des figures d'Alphonse le Batailleur et d'Alphonse VI ou d'Alphonse VII. Le roi d'Aragon pourrait incarner la figure du roi croisé par excellence. Alphonse le Batailleur a été le fondateur du premier ordre militaire de la péninsule, la confraternité de Belchite. Il n'a pas ménagé ses efforts pour faire reculer les ennemis du Christ et il est mort de blessures reçues au combat en 134. Pourtant, dans l'historiographie contemporaine, il est fermement condamné pour son manque de piété. L'Historia Compostellana en fait un tyran et un impie. Les chroniques anonymes de Sahagun renchérissent sur sa cupidité et sa violence, assurant qu'il aurait même volé les reliques de la vraie croix. La Chronica Defensi Imperatoris le présente comme irrespectueux de sa parole et sourd au conseil des évêques. Dans ses chroniques d'obédience léonaise, Alphonse Ier est un contre-modèle destiné à exalter les vertus de son beau-fils, l'empereur Alphonse VII. Comme l'a suggéré Hélène Saint-Antoine, il fait ainsi doublement figure d'anti-empereur, tout d'abord parce qu'il a conservé le titre impérial après sa séparation d'avec Urraca pour revendiquer son autorité sur les territoires castillo-léonais et se placer en concurrent de son beau-fils Alphonse VII, et en second lieu parce que lui a donné au titre d'empereur une dimension militaire prépondérante. Ce que l'on voit ainsi en creux est le poids que les chroniques léonaises du XIIe siècle continuent d'octroyer à la figure du roi pénitent, pieux et respectueux de l'Église, qui est depuis 711 une dimension majeure des discours de légitimation royaux. De fait, en contrepoint de l'orgueil des souverains visigoths, cause de la conquête islamique, chroniques et documentations exaltent l'humilité et la pénitence des rois en lien étroit avec une conception monastique de l'eschatologie. Le modèle dont il s'inspire est en dernier lieu christique. Comme l'a bien montré Gilles Constable, l'imitation Christi est au fondement de nombreux discours de légitimation. À l'image du Sauveur qui a racheté les fautes de l'humanité, les rois doivent adopter un comportement irréprochable et faire pénitence pour le salut de leur peuple. Cette dimension est particulièrement présente au XIIe siècle dans l'Historia Silensis, une chronique anonyme écrite dans les premières décennies de ce siècle et dont le lieu de rédaction est discuté dans l'historiographie, mais qui pourrait être le monastère de Sahagun ou la collégiale San Isidoro de León, donc deux établissements en lien avec le pouvoir royal. Donc cette Historia Silensis est une œuvre écrite pour raconter les hauts faits du roi-empereur Alphonse VI, mais dont le texte est resté inachevé et qui consiste en réalité en une compilation de chroniques antérieures et, pour la partie inédite, en un récit du règne du père d'Alphonse VI, le roi Ferdinand Ier. La description de la vie très pieuse que menait ce dernier s'inspire de modèles impériaux non ibériques. L'auteur décalque par exemple la vie de Charlemagne par Eginhard ou la vie de Louis le Pieux par Tégan. Ferdinand, selon le récit, meurt en pénitent, recevant notamment le cilice et la cendre. L'auteur utilise également la figure de Constantin pour souligner la nécessaire soumission des souverains à l'Église. la biographie de l'empereur fait partie des 5 modèles offerts en introduction à Alphonse VI dans l'Historia. Constantin fait ici figure de contre-modèle, car d'empereur protecteur de l'Église, il est devenu hérétique. La soumission du roi à l'Église est également mise en scène dans le récit de la mort de Ferdinand Ier. Donc, dans l'extrait cité ici, sachant sa mort imminente, le roi se rend sur l'autel de la basilique San Isidoro, où il s'adresse à Dieu afin de lui rendre le regnum qui lui avait été confié et de lui remettre sa couronne et son manteau, un signe de son pouvoir terrestre. L'épisode rappelle étrangement la remise des insignes de la royauté à Dieu et au Christ dans la légende du dernier empereur. L'événement marque dans le pseudo-méthode, ou l'oracle de la Sibylle Tiburtine, le début du scénario eschatologique. L'empereur, ayant déposé sa couronne sur le Golgotha et rendu l'esprit, l'Antichrist peut alors déployer sa persécution. La reprise du motif, ici dans l'Historia Silensis, qui pourrait également s'appuyer sur la première épître aux Corinthiens, évacue la charge apocalyptique. Ici, Ferdinand dépose sa couronne sur l'autel qui abrite les reliques des saints qu'il a fait transférer à Léon. Sa mort n'est pas présentée comme la fin d'un règne terrestre qui marquerait le début de la fin des temps, mais elle met l'accent sur le dépouillement et l'humilité du roi devant le Christ. Les actions vertueuses des rois sont depuis 711 mises en exergue à la fois comme condition de la victoire contre les musulmans et comme condition du salut du peuple chrétien. Comme l'ont bien montré les historiens, notamment Peter Linehan ou Patrick Aurier, le discours historiographique exalte leur rôle de réformateurs, de bâtisseurs d'églises et bien sûr de protecteurs des chrétiens. Les chroniques de la première moitié du XIIe siècle ne s'écartent pas de ces modèles. Dans l'exemple cité ici, Alphonse VI fait par exemple célébrer à Léon un concile dans lequel il décide de repeupler la ville et lui donne des préceptes et des lois qui doivent être observées jusqu'à la fin du monde. Dans la chronique de l'évêque de Pélage d'Oviedo, le règne d'Alphonse VI est une telle ère de paix que l'évêque raconte qu'une femme qui serait chargée d'or et d'argent pourrait traverser l'intégralité du royaume sans être ennuyée ni arrêtée. Alphonse VII, à son tour, d'après la Chronica Defensi Imperatoris, donna des coutumes et des lois pour tout son royaume, telles qu'elles avaient existé au temps de son grand-père, le roi Alphonse, c'est-à-dire donc Alphonse VI. Il aurait ordonné que soient restitués à l'ensemble des églises tous les domaines et serviteurs qu'elles avaient perdus, prescrit de peupler les villas et les terres qui avaient été détruites pendant les guerres, ordonné à tous les juges d'éradiquer sévèrement le vice, et ordonné également au gouverneur de Tolède et à tous les habitants de l'Extrémadure de constituer des troupes afin de faire constamment et chaque année la guerre aux infidèles sarrasins. À l'inverse donc de ces deux figures valorisées, les péchés d'Alphonse le Batailleur sont la cause de la colère divine qui s'abat sur son peuple sous la forme des musulmans, en dépit des prières que fait le clergé pour apaiser la colère divine. Les motivations des comportements royaux sont généralement sotériologiques et se fondent sur des modèles vétérotestamentaires. L'influence de l'eschatologie monastique sur l'idéologie royale peut emprunter plusieurs biais. Les souverains recherchent la fréquentation des moines, les incluent dans leur entourage, voire dans leur cercle de conseillers. D'autre part, ils lisent ou se font lire les ouvrages majeurs de l'eschatologie monastique, notamment le commentaire sur l'Apocalypse du moine Béatus de Libana, composé à la fin du 8e siècle, qu'ils font copier puis offrir au grand monastère sous patronage royal, et dont vous avez pu voir quelques images dans le PowerPoint. Plusieurs copies du commentaire de Béatus furent réalisées au XIIe siècle, et dont deux au moins par des établissements liés au pouvoir royal, Silos et Sahagun. L'imagerie apocalyptique est aussi mise en relation avec l'eschatologie individuelle et la préoccupation sotériologique dans le cadre des panthéons royaux, tels que notamment celui de Léon, dont vous voyez ici une image. La reine impératrice Urraca a commandé et fait réaliser le décor du panthéon de la basilique San Isidoro, aujourd'hui considéré comme l'un des joyaux de l'art roman ibérique. Le programme iconographique de la voûte, donc représenté ici, est clairement apocalyptique. Au centre de la composition, le Christ juge trône dans une mandorle entourée des quatre évangélistes. Plusieurs autres peintures, donc autour de cette peinture centrale, représentent les épisodes clés du scénario de la fin des temps. Cette scène centrale est le couronnement de l'histoire du salut, qui est représentée sur les voûtes depuis Adam et Ève par quelques scènes choisies. Il s'y trouve notamment une représentation de la crucifixion, autour de laquelle deux orangs ont été représentés agenouillés, le roi Ferdinand et la reine Sancha, identifiés par une inscription. Le Panthéon devient ainsi le moyen d'exalter la dynastie castillo-léonaise en mettant en valeur la piété et l'humilité de ses rois et leur statut de protégé du Christ, l'empereur par excellence. De fait, dans les chroniques de Sahagun ou encore dans la documentation, les prières de protection et d'intercession en vue de la fin des temps sont toujours adressées à l'éternel empereur, c'est-à-dire le Christ. La documentation est enfin le lieu privilégié tant de l'affirmation des prétentions politiques des souverains que de l'expression de leur piété et de leur pénitence. Une donation d'Uraka, alors qu'elle était encore infante en 1099, souligne par exemple l'humilité de la fille d'Alphonse VI. Après une longue invocation christologique, précédée d'une croix ornée d'un alpha et d'un oméga, le préambule situe l'offrande dans l'optique de la fin des temps et du jugement à venir. C'est donc l'extrait que j'ai reproduit. L'acte rappelle l'espoir que la donation permettra d'effacer les péchés de la donatrice. La longueur et la solennité du préambule témoignent de la progression de la préoccupation eschatologique à la fin du XIe siècle. Dans une donation à la cathédrale de Lugo en 1112, la reine impératrice est encore signalée pour l'importance de sa pieuse crainte du Christ. Elle est décrite comme en pleurs, implorant par ses soupirs et par ses larmes l'aide du Seigneur et sa protection en vue du jugement dernier. Ainsi, donc, pour conclure, à bien des égards, la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle marquent un tournant. Un tournant politique, militaire culturel. Les chroniques s'inscrivent pour autant dans un héritage ancien, alto-médiéval et même visigothique, qui octroie au souverain une mission particulière. Défenseur des chrétiens et de l'Église, guide vers le salut, acteur d'une réforme morale de la société. Ce discours reprend des éléments de différentes figures impériales, Alexandre, Constantin ou Charlemagne, sans que celle-ci soit apocalyptique, comme le dernier empereur. À la différence des prophéties étudiées entre autres par Jean Fleury ou Gianluca Potesta, pour les souverains francs, italiens ou ottoniens, le rôle messianique des empereurs ibériques reste limité à la lutte contre l'islam et à l'établissement d'un règne de paix et d'ordre sans projection vers le futur. Ils accomplissent déjà ici et maintenant la mission qui leur est réservée par la tradition prophétique et historiographique. Dans la construction de la figure du souverain, le modèle du roi pénitent reste essentiel. L'adoption du titre d'impérator et de ses connotations militaires n'a été privilégiée en ce sens que par Alphonse le Batailleur, avec un résultat, comme je l'ai montré, assez limité. Un seul texte, la chronique de San Juan de la Peña, composée vers 1360-1370 pour exalter les rois de Navarre et d'Aragon, rend hommage à la mémoire du batailleur et associe sa légitimité d'empereur à ses nombreuses conquêtes. Cette chronique reflète une évolution dans les critères de valorisation du souverain. Elle est nettement plus tardive. Dans les textes étudiés ici, la légitimité du roi s'appuie encore sur la double dimension de la mission royale, pénitentielle et militaire, bien que la valorisation du général victorieux semble gagner du terrain en comparaison avec les chroniques antérieures. La tension eschatologique, entretenue par l'Église, demeure néanmoins récurrente pour justifier ou condamner des comportements. Elle est en ce sens tant le moteur de l'action royale que sa justification. Et j'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention.